m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer et aussi participer à ce débat ou encore à cet échange citoyen. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Claude Siala est à la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambaye Piro et la Mégie sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo. De quoi est-il question aujourd'hui? Dans une décision publiée la semaine dernière, le chef de l'État a suspendu le ministre des Affaires foncières pour insubordination. Dans une autre décision, il a suspendu le directeur général de la SETP, ex-ONATRA, et son adjoint, ainsi que les responsables de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, tous pour mauvaise gestion. Selon les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, ces décisions rentrent dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Ils sont nombreux à avoir salué cette décision de la présidence de la République. Mais que pensez-vous de la suspension d'un ministre et des mandataires publics par le chef de l'État? Ernest Mpararo, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Alors vous êtes président de la LICOCO, la Ligue Congolaise contre la Corruption, ou de lutte contre la corruption. Vous avez suivi l'actualité avec nous. Alors qu'est-ce que cela vous inspire? La suspension d'un ministre et des mandataires publics par le chef de l'État. Et le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a annoncé que ces décisions rentrent dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Merci beaucoup. Premièrement, nous félicitons ces décisions, mais nous restons toujours à notre soif parce que les gens qui ont été suspendus ont été reprochés de mauvaise gestion et nous pensons que le chef de l'État doit les transférer devant les cours et tribunaux et pour qu'il y ait des sanctions judiciaires à l'encontre de toutes ces personnes qui ont été sanctionnées pour mauvaise gestion. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore innocents, ils sont encore libres. Mais nous espérons effectivement que la justice, les parquets, les cours et tribunaux feront aussi leur travail pour effectivement mettre fin à l'impunité ou à la corruption en RDC.
Est-ce qu'il faut que cette décision ait un effet immédiat?
Effectivement, ça doit être dans un effet immédiat, étant donné qu'on a soupçonné, il y a eu des présomptions de mauvaise gestion, et je pense que directement, le procureur général, ou près de la cour d'appel, ou près de la cour de cassation, doit ouvrir immédiatement un dossier judiciaire et demander leur transfert devant son bureau pour des investigations approfondies et fixer les dossiers devant les cours et tribunaux. Et s'il y a des faits concrets, que ces gens-là soient jugés et condamnés et arrêtés immédiatement.
Alors pour l'RPTC, c'est vrai, les faits immédiats, il y en a eu, d'autant plus que l'RPTC, dépend directement de la présidence de la République. Mais la SCTP, ex-ONATRA, une entreprise publique, dépend du gouvernement congolais et il a été demandé au Premier ministre de prendre, au fait, une décision dans ces sens-là. Est-ce que jusque-là, cela a été fait?
Pour la RPTC, je n'ai pas d'informations, mais je pense qu'aujourd'hui, pour le DG de
la SCTP,
l'ex-ONATRA, effectivement, nous pensons qu'il y a déjà un dossier qui est ouvert à son encontre. Et je pense que au niveau des cours et tribunaux, au niveau du parquet, les investigations sont en train d'être menées. Et nous souhaitons effectivement que ces investigations arrivent, aboutissent jusqu'à une condamnation ou un acquittement s'il n'est pas vraiment prouvé qu'il a commis des faits de corruption. Mais s'il a commis des faits de corruption, effectivement, on doit les juger, l'amener devant les cours et tribunaux et les sanctionner conformément à la loi.
Alors, mais la mesure devait avoir un caractère conservatoire.
Pas conservatoire. Tu sais, le président, il est le chef de tous. Il peut juger lorsqu'il voit les degrés des dossiers, il peut de demander à ce que la personne soit suspendue en attendant qu'il y ait des investigations qui se mènent jusqu'à ce qu'on prouve effectivement que la personne suspendue a commis des faits infractionnels et transférer directement le dossier devant les cours et tribunaux. Donc c'est une procédure qui est normale, une suspension pour que la personne ne puisse pas faire disparaître les preuves. Ils doivent être suspendus temporairement jusqu'à ce que les investigations continuent.
Est-ce qu'il peut être remplacé pendant ces temps?
Non, pas encore, parce qu'il faudrait effectivement qu'on prouve que la personne a effectivement commis des faits infractionnels. Et lorsque les faits sont prouvés, à ce moment-là, on peut les remplacer.
Mais en attendant, parce que le cas, par exemple, de la SCTP, où les DG et son adjoint sont directement suspendus, finalement, c'est les comités de gestion, ceux qui sont opérationnels et qui ont la gestion au quotidien, et laisser ces vides juridiques, les problèmes ne se posera pas?
Non, même pour l'ONATRA, c'est le comité de gestion composé de 5 personnes. S'il y a 2 personnes qui sont suspendues, il y a encore 3, il y a les directeurs financiers, les directeurs techniques. Et je pense que ces deux-là peuvent assumer les affaires courantes jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent et jusqu'à ce qu'on prenne des mesures pour les remplacer. Mais pour les remplacer, effectivement, il faudrait qu'il y ait un gouvernement. Le gouvernement, l'ONATRA dépend du ministère du portefeuille. Le ministère du portefeuille va amener les dossiers auprès du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va prendre une décision et on soumet une ordonnance au chef de l'État et c'est le chef d'État qui signe. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, il y a quand même les directeurs financiers qui existent, il y a les directeurs techniques qui existent. Ces deux personnes-là peuvent jouer le rôle d'ADG, DG ou de DGA et assumer les affaires courantes.
La lutte contre l'impunité est un exercice difficile, pensent certaines personnes, et le signal fort que vient de lancer la présidence de la République, comment la consolider?
Effectivement, vous savez, dans notre pays, sous l'ancien régime, les faits de corruption étaient comme vraiment de la gangrène. Nous avons pas mal de dossiers, prenez par exemple Bukangalonzo. Il y a des cas qui sont avérés que certains responsables ont détourné l'argent, plus de 200 millions de dollars. Regardez les contrats chinois ici. Il y a 4-6 milliards qu'on nous a donnés pour qu'on puisse construire des infrastructures. Aujourd'hui, la partie chinoise nous dit qu'ils ont déjà dépensé 3 à 4 milliards. Mais lorsque nous partons sur le terrain, on ne voit pas les 4 milliards là. Il faudrait effectivement qu'il y ait des investigations pour savoir qui a fait quoi, qui a fait qui, jusqu'à ce que ce sont des projets qui ont un impact sur la pauvreté, un impact sur le développement du pays. Je pense que aujourd'hui, les chefs de l'État doivent vraiment s'élever et dire, écoutez, non, et non, et nous, il aura le soutien de toute la population.
Les FPI, par exemple, qui, oui, à un certain moment décrié ou avait encore des problèmes de trésorerie, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien cette question, qui était liée pratiquement à l'insolvabilité de certaines personnalités politiques qui ont été citées dans les rapports dans le contrôle parlementaire.
Effectivement, donc l'FPI, il y a 140 millions de dollars qui est dans le main des personnes. Ces personnes-là devraient construire des unités de production et engager des citoyens congolais pour effectivement lutter contre le chômage. Mais ces gens-là ont pris cet argent, ils ont construit leurs propres affaires et ils ne veulent même pas payer. Il faudrait qu'ils répondent devant le FPI, parce que le FPI aujourd'hui, il est dans une situation où il doit financer des PME, il doit financer des initiatives locales. Il n'arrive pas à financer ces initiatives locales. Il y a le cas de la fibre optique. Aujourd'hui, nous payons le prix de l'Internet le plus cher de la région SADC. Pourquoi? Parce que la fibre optique n'a pas été bien construite. Il y a eu de l'argent qui ont été débloqué. Cet argent a été détourné. Et les gens qui ont détourné sont connus et ils doivent répondre devant la justice. Il y a par exemple, vous vous souvenez, le projet de l'ancien ministre Matata, des 1000 écoles qu'on devrait construire.
Tout à fait.
Dans chaque province. Combien on a été construit, on ne connaît pas. Il y a des politiques qui ont reçu l'argent, ils n'ont pas construit des écoles. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes gens-là qui sont dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont ces jeunes gens-là qu'on recrute dans les groupes armés parce que ces gens-là ne peuvent pas aller à l'école.
Donc, et la question de la relance agricole avec des tracteurs qui ont été donnés à travers les pays, distribués par l'ancien chef de l'État au niveau des provinces. Et on a donné à chaque ministre provincial de l'agriculture, mais cette question aussi est restée pendante.
Effectivement, donc il y a plein de dossiers où que si on ne met pas la main sur toutes ces personnes-là, en tout cas on va propager l'impunité et les autres qui viendront pourront dire, écoutez, moi aussi je vole, dès que je quitte, personne ne me fera absolument rien.
Est-ce que pour consolider cela, il faut simplement, disons, sanctionner toutes ces personnes qui seront impliquées ou concernées par ces dossiers?
Effectivement, et c'est là la grandeur d'un homme d'État, et c'est là la grandeur d'un président qui veut changer les choses. On doit sanctionner ces gens, et c'est les députés provinciaux qui sont en train de demander l'argent pour élire des sénateurs et pour élire les gouverneurs, ils auront peur.
Je vous dis que mais la Constitution, la loi de la République ne donne pas simplement ses prérogatives au président de la République, parce que le contrôle parlementaire doit être mis à contribution pour arriver finalement à consolider cette lutte.
Lorsqu'il y a des présomptions, le chef de l'État peut demander à la Cour des comptes d'investiguer, il peut demander à la police d'investiguer, il peut demander au CNRF d'investiguer, il peut demander à l'Inspection générale des finances d'investiguer, en attendant que les institutions parlementaires soient installées.
Mais la Cour des comptes, c'est un bras séculier du Parlement.
Effectivement, la Cour des comptes, c'est une institution qui dépend administrativement du Parlement, mais elle est autonome dans les investigations, dans les enquêtes, dans les contrôles. C'est la même chose que l'Inspection générale des finances, c'est la même chose que l'unité de lutte contre la corruption de la police, donc c'est la même chose que la CNRF, la Cellule nationale des renseignements financiers. Toutes ces institutions-là, on peut les mettre à contribution pour effectivement qu'on puisse prouver que tel projet, tel monsieur a eu l'argent, tel projet, tel monsieur a détourné, et à travers ces rapports, le chef de l'État peut envoyer ces gens-là devant les cours et tribunaux et ils soient jugés.
Merci beaucoup Ernest Pararo. Nous vous gardons en ligne le temps de parcourir l'ensemble du pays pour recueillir également le point de vue des uns et des autres. Ce que pensent les compatriotes sur la suspension d'un ministre et des mandataires publics par le chef de l'État. On reviendra à vous, mais nous notons que vous avez souhaité pour consolider cette lutte contre l'impunité, qu'on puisse sanctionner également ceux qui ont été impliqués par les dossiers Bukanga-Lonzo, les contrats chinois avec 6 milliards, les FPI avec 140 millions de dollars, la question de fibre optique, les 1000 écoles ou encore la relance agricole, et pourquoi pas la question des GOPAS aujourd'hui, RVA, qui était censé de réhabiliter des infrastructures aéroportuaires. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Le saviez-vous? Les Nations Unies interdisent à ses employés l'échange d'argent, de nourriture, d'emploi ou toute autre assistance contre les faveurs sexuelles auprès de la population. Si vous êtes victime de ces actes ou bien témoin, signalez-les auprès des bureaux de la MONUSCO, de votre point focal communautaire ou en appelant gratuitement au 081 890 77 44 ou 099 7058000. Le personnel de la MONUSCO et des Nations Unies en République démocratique du Congo disent non à l'exploitation et aux abus sexuels. Ceci est un message de Nations Unies.
Parole aux auditeurs.
Nous vous retrouvons, Joséphine, vous êtes à Boston. Bonjour, madame.
Ah, bonjour, JR. Hein. Bonjour aussi à nos auditeurs, tous ceux-là, toutes les personnes qui écoutent à ce moment ici. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
Alors, que pensez-vous de la suspension des ministres et des mandataires publics par le chef de l'État?
Mais c'est une action positive et qui, pendant toutes ces années ici, de ma part, je m'attendais d'un président comme ça. Hier, je vais vous dire ceci, le mal, hein, la corruption, le vol, c'est un mal à tâter, à suspendre, à couper. Hein, c'est comme une seule tomate, une mauvaise tomate dans un panier de 100 tomates, vous mettez seulement une seule, ça va contaminer toutes les autres. Alors ce qu'il faut faire avec la tomate là, il faut l'enlever, et même enlever les tomates qui étaient tout autour, pour que ça ne puisse pas corrompre les autres. C'est comme ça avec la corruption. Le Congo, sous le plan de la corruption, et vraiment, vraiment dans le front. Enfin, il faut des actions comme ça chaque jour. Et pour arrêter la corruption, le mal au Congo, il faut que chaque Congolais, nous tous le matin, quand on se réveille le matin, on pose un acte positif. Le président lui-même ne peut pas terminer la corruption si un enseignant à l'école, il prend la corruption, si un policier sur la route il prend la corruption. Alors, il faut commencer avec les têtes. Parce que tout le mal qu'on fait, toutes les corruptions que les chefs font, c'est la petite population qui regarde. C'est un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans qui regarde, et s'il grandit dans la corruption, et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Ça, ce sont des actions à applaudir, et il faut coûter. Donc, enlever la personne, et c'est fini pour la personne, pour le directeur, pour les ministres, pour le chauffeur. Il faut couper avec ça pour montrer les exemples aux autres.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis, Félicien?
Moi, je veux dire que c'est déjà une bonne nouvelle. Mais je voudrais dire aux nouvelles autorités qu'ils doivent aller de très loin et très vite. Parce que le peuple congolais a attendu ce moment, cette alternance, et il a fait ce qu'il devait faire pour que les choses changent et qu'ils changent radicalement. Et mais aujourd'hui, de suspendre des dirigeants d'entreprise, un ministre, tout ça, c'était un bon départ, mais nous ne pensons pas que ceux qui sont pas suspendus, ils sont les meilleurs, parce que le président de la République sortant, tout le temps qu'il a été au pouvoir, il a fait dénoncer les antivaleurs, il a fait dénoncer la mauvaise gestion de ses collaborateurs, et c'est maintenant le moment de montrer que il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé et qui veut faire la volonté du peuple congolais et qui a voulu vraiment un changement radical. Et on doit aujourd'hui faire les états des lieux, envoyer des audits.
Oui, Félicien, il y a un auditeur qui dit l'état des lieux est connu. Il y a eu des rapports, il y a eu des missions qui ont été diligentées, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou encore au niveau de l'inspection des finances, ou peut-être ailleurs aussi, notamment, comme l'a dit notre invité, au niveau de la Cour des comptes. Des rapports existent. Pourquoi ne pas prendre ça et aussi les utiliser, enfin, de pouvoir établir la vérité?
Oui, c'est ça que nous demandons, Gérard, que qu'on commence à faire des sélections, à tourner à rond, qu'on passe vite parce que il y a rien qui marche et tout est par terre au pays. Il faut redresser les choses, il faut aller vite. Nous sommes, comme l'a dit un jour le Premier ministre Matrapone, que nous devons être pressés, nous sommes en retard, nous devons être pressés pour changer les choses. Et il ne faut pas attendre que les gens dans les entreprises fassent la grogne pour qu'on puisse regarder qu'est fait le DG. Or, aujourd'hui, il y a des DG qui sont en train de corrompre, de diviser des syndicats dans les entreprises pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour qu'ils soient toujours là. Mais qu'on vienne voir partout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, mais qu'on change les choses radicalement, qu'on ne fasse pas la sélection risque de paraître comme si c'était un règlement de compte, comme si c'est la chasse à l'homme, mais qu'on passe partout et qu'on change les choses. Même les gouvernements gèrent. Est-ce qu'on doit garder ce gouvernement jusqu'à quand? Mais c'est de la confusion, nous ne savons plus dans quelle situation nous nous trouvons. Et mais on a vu sous d'autres cieux, l'administration dirigée ou gérée des affaires courantes, et le gouvernement fait ça. Sa démission et puis
est-ce que vous partagez l'avis, Félicien, parce qu'il y a un auditeur, on va vous permettre de placer encore un mot avant de partir, ceux qui estiment que effectivement il faut en ce moment ne pas continuer avec les gouvernements, laisser les secrétaires généraux gérer les affaires courantes, ça va ne fût-ce que réduire un peu sensiblement des cas, ça pourrait permettre la lutte contre l'impunité.
Mais bien sûr. Et ce gouvernement qui a fonctionné dans la situation que vous connaissez, de continuer à les garder. Ils vont faire 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que ceux qui sont arrivés puissent régler leurs différends et trouver des solutions. Mais c'est-à-dire que c'est soutenir l'impunité, c'est soutenir le pillage, c'est soutenir la malversation. Et ce sont eux qui sont en train de soutenir les DG dans les entreprises et qui travaillent mal et qui sont en train de détruire. Mais vous savez, si le gouvernement actuel, si le président Fatty et son directeur de cabinet ne changent pas radicalement les choses, demain, le peuple dira qu'effectivement, ils avaient raison de croire que il n'était pas de l'opposition.
Voilà, je crois qu'on pourrait vérifier. On pouvait vérifier l'information si cela est vrai, parce que pour les cas, par exemple, du ministre des Affaires foncières qui est suspendu pour insubordination, la présidence de la République avait demandé au Premier ministre de prendre une décision dans ce sens-là. Bon, en ce moment, nous apprenons, en tout cas, c'est à prendre encore avec beaucoup de réserves, la suspension du directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières, qui avait géré cette question de cet argent ou encore le cas de gestion. Merci beaucoup, Félicien, d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, Chier, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité de cette émission de ce jour.
Alors, que pensez-vous de cette suspension?
Bon, je crois que on ne peut pas se taper le thorax pour dire que c'est bienvenu ou c'est malvenu. Mais le problème, c'est quoi au juste? L'histoire de corruption dans notre pays, le détournement des fonds, des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je crois que si on a l'intérêt de sauver ce pays, Nzolo Bambi est vivant. Tout ce qu'il a dénoncé toujours. Mais c'est toujours la justice qui vient, qui réclame encore les preuves. Pour aller tout droit au but. Regardez hier les élections au niveau de l'élection que nous venons de vivre au mois de décembre passé et la suite qui est en train de venir.
On parlera des élections demain, parlons des entreprises aujourd'hui.
Oui, dans les entreprises. Ouais. Mais lorsqu'on soupçonne les indices de corruption, personne ne cherche que les preuves.
Donc pour vous, vous estimez que l'état des lieux est connu, il faut qu'on appelle l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, parce qu'il a tous les éléments qu'il mette à la disposition de l'actuel président, afin de trouver des sanctions sur cette question.
Comme nous sommes dans la continuité des institutions, il est vivant, il a toutes les situations documentées, il les verse aux autorités actuelles, et les autorités actuelles cherchent les hommes pour étudier et commencer à poursuivre. Si on arrive à faire cela, on va attraper tout l'argent qui ont détourné à l'ONATRA, qui ont fait qu'aujourd'hui l'ONATRA soit en difficulté, et la suite sera claire. Nous allons tous avoir peur de prendre presque un stylo. Le stylo appartient au bureau de l'État. Donc, la situation est claire, tous les éléments sont là. Il n'y a pas
à chercher ailleurs.
Aujourd'hui, la roue ne sera plus clayée, la situation est là, mais on doit surveiller tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi, le président de la République actuelle ne doit pas continuer à tirer les choses en longueur parce qu'il continue à travailler avec ces gens qui ont déjà des ramifications terribles. Vous pensez qu'ils vont dire toutes les vérités?
Donc vous partagez l'avis qu'il va falloir donner l'intérim au secrétaire général de l'administration de continuer en attendant qu'on puisse mettre en place un gouvernement.
Nous avons vécu ça avec l'arrivée de ce gouverneur Jacques. Il est arrivé, il a balancé tous les ministres, il a travaillé avec les directeurs de division. Mais les choses étant bien que mal, ça a évolué pour éviter certaines choses. Parce que ces gens ont déjà leurs ramifications, leurs beaux frères, leurs petits frères, les cousins, les chéris, qui savent comment ils dissimulent les recettes de l'État.
Merci beaucoup Ernest. C'est votre manière de proposer pour consolider cette lutte contre l'impunité annoncée déjà par cette décision prise par la présidence de la République en suspendant donc les ministres des Affaires foncières pour insubordination. Et dans une autre décision, il a suspendu le directeur général de la SCPT, ex-ONATRA, et son adjoint, ainsi que le responsable de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications, tous pour mauvaise gestion. Comment commentez-vous cette actualité, Franck? Vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour nos amis au studio, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés, bonjour aussi à l'invité.
Quel est votre avis, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je vais tenter d'être bref. La mesure de suspension en soi est déjà salutaire et on doit vraiment l'encourager. Il faut commencer par quelque part pour atteindre des objectifs escomptés. Et par rapport à certains dossiers et au volume de mes gestions, je trouve personnellement qu'il y a lieu d'aller au-delà des suspensions. Parce que pour quelqu'un qui a détourné plus de 30 millions, par exemple, ou pour quelqu'un qui a privé certains ouvriers de leurs droits fondamentaux que sont les salaires et autres avantages, on pourrait aussi exiger que de tels cadres qui brillent par la mégestion puissent d'abord être arrêtés, traduits en justice, et qu'on leur exige de restituer l'État congolais dans ses droits, donc qu'ils restituent tout ce qu'ils ont détourné. Parce que si on s'arrête seulement à suspendre quelqu'un qui a détourné on ne sait pas combien de millions, et dans ces millions, c'est parfois des salaires des ouvriers pendant plus de 10 mois. Je crois qu'une mesure de suspension, ça peut déjà prévenir certains qui pourraient encore avoir l'idée de commettre de tels actes. Mais s'il est, par exemple, révoqué, s'il est, par exemple, arrêté, si on voit la justice faire convenablement son travail en lui demandant de restituer l'État dans ses droits, je crois que la lutte contre l'impunition pourrait vraiment donner ses effets et elle serait très manifeste. Et je crois qu'on doit encore beaucoup insister pour qu'on atteigne vraiment cette finalité-là. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup Franck. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Oh Mario,
tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet échange citoyen. Quand je vous ai à Kikwit, gardez la ligne. Il est temps de retrouver notre invité, Ernest Mpararo, qui est avec nous. Monsieur Mpararo, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
D'abord, un commentaire, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, d'écouter des uns des autres.
Oui, merci. Les compatriotes ont raison. Effectivement, c'est comme je le disais. Ils ont raison. Les Congolais ne veulent plus voir des politiciens qui ont détourné, des politiciens qui ont été corrompus, des politiciens qui ne payent pas d'impôts. On ne veut plus les voir au pouvoir. Ça, c'est le message qu'on donne aujourd'hui à l'actuel chef de l'État. Maintenant, pour des dossiers qui sont existés, par exemple le cas de l'ONATRA, vous vous souvenez qu'il y a eu une redevance qu'on a créée en 2012 pour effectivement financer l'activité ferroviaire afin de relancer l'activité. Aujourd'hui, cette redevance a produit plus de 55 millions de dollars, mais le rail n'a jamais été réhabilité. Donc, les comités de gestion d'antan, l'actuel comité de gestion, les ministères du travail, à qui les ministères des transports qui donnaient des ordres, ou les ministères des finances qui donnaient des ordres pour utiliser, doivent venir se justifier. Donc, il y a la Gécamine aujourd'hui, il y a la SNEL aujourd'hui, il y a donc, de toutes les sociétés aujourd'hui, on doit mettre de l'ordre, on doit auditer, on doit contrôler et savoir comment est-ce qu'aujourd'hui à Kinshasa par exemple, un pays qui a plein de cours d'eau, nous sommes incapables d'avoir un courant à 24 heures sur 24 heures. C'est anormal alors que si vous partez à Brazzaville, vous avez du courant 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Parce que tous les DG qui sont arrivés, tous les comités de gestion qui sont arrivés, les comités d'administration, ils ont détourné de l'argent, ils ont oublié de réhabiliter l'outil de production, d'acheter l'équipement pour effectivement nous fournir un bon courant afin que nous puissions contribuer à ce développement-là. Donc, nous disons, la tâche est tellement difficile, mais je pense que si on commence à arrêter 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous verrez que
voilà.
Les gens
ont... Alors, Monsieur Mpararo,
Laurent Désiré Kabila l'avait fait, et vous avez vu des effets. Dans la route, les policiers commençaient à verser même l'argent dans les comptes de l'État. Laurent Désiré Kabila a financé la réforme monétaire sans aide extérieure. C'est quelque chose qui doit nous inspirer et nous encourageons les chefs de l'État à aller jusqu'au bout, à arrêter tout ce monde-là. Et vous verrez que demain, il sera l'homme le plus populaire de la RDC.
Voilà. Alors, il y a certains auditeurs qui ont estimé qu'effectivement, en ce moment, c'est vrai, dans le respect de principes de continuité, les gouvernements qui y en place devraient continuer. Mais l'ensemble, la majorité, en tout cas, ceux qui ont commenté ces sujets sur notre page Facebook, souhaitent que l'actuel président puisse travailler avant la mise en place de nouveaux gouvernements, de l'administration publique, c'est-à-dire les secrétaires généraux, puissent continuer à assumer les affaires courantes. Parce que il y a certaines personnalités, selon les commentaires des uns et des autres, sont impliquées aussi qui, par l'argent qu'ils ont emprunté au niveau du FPI ou d'autres cas cités, pourquoi pas, dans les rapports de Luzolo Bambi.
Effectivement, comme vous le dites, effectivement, ce n'est pas un problème de remplacer le gouvernement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de sanctionner. S'il y a un membre du gouvernement actuel qui est impliqué dans des cas de détournement, le chef de l'État, lorsqu'il a des preuves palpables, il doit les révoquer et l'amener devant les cours et tribunaux. Il peut travailler avec n'importe qui, mais pourvu qu'il y ait de l'ordre. Si aujourd'hui il y a un gouverneur ou un premier ministre ou un ministre qui est impliqué dans des dossiers de détournement, il doit demander sa révocation et les traduire devant les cours et tribunaux. Mais, comme on l'a dit, il devrait aussi faire tout pour que le gouvernement soit installé le plus tôt possible afin de combler le vide institutionnel. C'est comme ça que ça marche dans d'autres États. Tu peux travailler avec n'importe qui, mais lorsqu'il il dépasse la ligne rouge, lorsqu'il est impliqué dans des cas de corruption, dans des fraudes, dans des concussions, directement le monsieur est révoqué et amené devant les cours et tribunaux. Chez nous, dans l'ancien régime, ça n'existait. C'était comme une prime. Une prime, on vous dit, écoutez, bon, vous détournez, vous restez, il suffit seulement de ne pas critiquer l'ancien régime. Si vous ne le critiquez pas, après 3-4 ans, vous revenez encore. Mais les choses ont changé, les Congolais ne veulent plus se voir ces gens-là, les Congolais n'accepteraient plus des politiciens détourneurs, des politiciens corrompus, on ne le veut plus. Nous voulons des gens qui veulent relancer le pays pour que nous soyons quand même, nous ayons une dignité, nous ayons un développement au sein de notre pays.
Voilà, vous êtes une ONG qui observe au fait la société, et notamment dans ce secteur de lutte contre la corruption. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des rapports, je l'ai dit en début de cette émission, il y a eu même des rapports de Luzolo Bambi tels qu'évoqués par notre auditeur Ernest Dematadi. Pourquoi ne pas utiliser ces rapports et qui sont parfois publiés aussi par vous, de l'ICOCO et d'autres Azado et que sais-je encore, pour aider l'actuel régime à pouvoir statuer et à sanctionner directement?
Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans l'ancien régime, les cours et tribunaux étaient hyper politisés. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore hyper politisés. Lorsqu'on envoie le ministère public à le devoir de chercher l'infraction, ce n'est pas à la population de lui donner l'infraction, c'est son travail. On le paye pour chercher l'infraction. On paye les magistrats, on paye le ministère public pour qu'il aille chercher l'information. Il peut le chercher à travers la police. Il peut le chercher à travers les services de sécurité. Il peut chercher cette information à travers une personne quiconque il trouve nécessaire pour lui donner l'information, il peut les chercher. Mais est-ce que les procureurs jouent ces rôles-là? Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient hyper politisés. Ils ne dépendaient que si aujourd'hui ils cherchent à arrêter X personnes, demain on les met. Demain on les met en retraite. Donc ils avaient peur de jouer leur rôle. C'est comme ça que nous avons vu des cas palpables où des gens ont détourné, où des gens ont emprunté et n'ont rien construit. Ces gens-là circulent librement. D'autres se sont fait même élire avec les bulletins du vol. Vous voyez que là où nous arrivons, maintenant, aujourd'hui, nous commençons à payer les conséquences de cela.
Voilà, on va continuer à vous garder en ligne. Il est temps d'écouter d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Archange est à Kikwit et puis Arsène dans la même ville. Archange, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à votre invité.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Ben, d'entrée de jeu, je dirais que c'est une mesure salutaire pour m'inscrire dans le même ordre d'idée que tous mes prédécesseurs. Mais je pense dire qu'il y a des fois se poser des questions sur la vraie motivation de ces mesures. Prenez sur le cas du ministre des Affaires foncières. On parle de l'insubordination. Je ne sais pas comment l'insubordination peut avoir comme sanction des sanctions judiciaires. C'est plutôt des sanctions administratives qui doivent accompagner ces genres de décisions. Et lorsque vous avez énuméré certains dossiers qui ont été confirmé par l'ancien conseiller principal en matière de lutte contre la corruption de monsieur, de l'ancien président, monsieur Ludo Lobam, pour ne pas les citer. Je pense que le président Félix, en arrivant, devait se saisir normalement de tous ces dossiers. Mais c'est Arsène Paraoké, votre invité, qui a un travail de citant au niveau de la LICOCO. Je pense à plusieurs, et puis il a été votre invité, il a eu à parler de beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de cas de suspicion de corruption. Aujourd'hui, directement dire qu'on va sanctionner ces personnes pour des raisons qui vont par après être investiguées, je trouve absurde, dans le sens où nous pouvons à notre niveau que ce sont des personnes qui ne servent plus à la cause du FCC. Au regard de leur poids politique, au regard de leur poids politique actuel, si permettez, le FCC se rend compte qu'il ne sert au pays à rien, on peut facilement les livrer pour permettre au président de bien poursuivre son chemin. Prendre le cas de la FCPT, ça peut se justifier, d'autant plus que c'est le bas syndicat qui l'avait jugé depuis un bon moment. Mais si je dois seulement m'apesantir au cas du...
Oui, mais la SCPT n'est pas la seule société dans ces cas-là. Nous avons vu des grognes par-ci, par-là, comme l'a dit, comme l'a signalé Franck de Vienne.
Oui, bien sûr, je suis bien content que vous puissiez l'énumérer. Mais je suis en train de vous donner des cas qui laissent à désirer. Les cas du ministère de... Comment? Le ministre Loumé Abimalé. Nous a parlé de la subordination. Ce sont des sanctions administratives qui sont prévues dans les cas pareils. Et lorsqu'aujourd'hui on dit qu'il y a une enquête qui sera ouverte à Kassa, il ne sait pas en vertu de quoi. Et lorsque nous nous rendons bien compte, nous comprenons qu'il y a des gens au niveau de ces ministères qui ont été à plusieurs reprises cités dans des cas de détournement, dans des cas de corruption et dans plusieurs cas qui sont des anti-valeurs même qui barrent encore dans notre société actuelle. Et dès maintenant, on entend en pensant que le président devait se saisir de tous ces dossiers qui sont déjà en train d'être embrouillés de poussière dans les tiroirs de certains magistrats et de certaines ONG. Donc, moi, je suggère que le président, pour montrer bonne image, puisse convoquer la LICOCO, puisse convoquer l'ancien conseiller de l'ancien président, et tous ces ONG qui ont eu à travailler pour la lutte contre la corruption, pour qu'ils puissent remettre à l'air tous les dossiers qui sont censés attester les cas de corruption et prendre des sanctions qui s'imposent.
Voilà.
Et de chercher aujourd'hui à sanctionner des gens qui, au regard de leur poids politique actuel, on se rend compte qu'ils ne veulent plus rien, alors on peut facilement les sacrifier pour faire plaisir à ceux qui nous commanditent là au-dessus. Ça laisse vraiment désirer, je suis désolé.
Donc pour vous estimez que c'est injuste la décision de prise contre les ministres des Affaires foncières?
Je ne dirais pas que c'est injuste, mais j'ai dit au moins, au regard des enjeux de l'air, il y a lieu de commencer par des dossiers qui ont depuis toujours...
Donc vous estimez qu'il y a une main noire derrière tout ça? Merci,
oui,
beaucoup. Merci beaucoup, Archange. Arsène, vous êtes à Kikwit également. Bonjour, Arsène.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Votre réaction, Arsène?
Merci beaucoup. Je prendrai quelques lignes de mon prédécesseur. En tout cas, s'il faut voir la situation comme elle est, le chef de l'État, c'est le magistrat suprême. C'est lui, à son nom, qu'on publie tout ce qu'il y a comme un jugement. Le chef de l'État est là. Si on doit voir la situation de notre nation, je crois que M. Loumeya n'est que bouc émissaire d'une situation que je ne peux pas accepter que ça se limite à son niveau. Pourquoi? Parce que nous avons des assassins tout autour de M. Félix Tshisekedi, notre chef de l'État. Il y a des assassins. Il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. On ne peut pas faire marcher ce pays sur base de la corruption.
Oui, voilà, oui, oui. Quand vous faites de telles déclarations, Arsène, je crois que vous avez des preuves. Parce qu'il ne faut pas. Quand vous faites de telles déclarations, j'imagine que vous avez des preuves. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit des déclarations gratuites.
Mais c'est connu de tous. Quelles sont les preuves que nous avons cherchées? Il y a eu des gens qui sont morts le 19 septembre. Il y a eu des gens qui sont morts à la proclamation des élections. Il y a eu des détournements. Nous n'avons rien dans la caisse de l'État. Nous avons eu des ministres qui n'ont pas su gérer le pays. Le pays est par terre. Vous allez me demander des preuves? Il y a la preuve de l'État de la nation. Le président de la République prend cette mesure. Il est le magistrat suprême. La mesure ne peut pas se limiter à un seul ministre. La mesure doit aller sur toute l'étendue de la gestion de la nation. On ne peut pas se limiter à un ministre. on envoie un ministre, par exemple, on le prend, on l'envoie en prison. Et tous les autres, même s'il a détourné, il a détourné ensemble avec qui? Avec le Premier ministre, s'il faut le dire. Parce que le Premier ministre qui l'a
détourné... Je pense pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement,
Arsène. La situation que nous avons.
Oui, Arsène, quand vous dites ça...
Moi, je ne peux... Oui.
Pas nécessairement avec le Premier ministre, pas nécessairement avec ses collègues.
Non, moi je veux dire le gouvernement dans son ensemble.
Ben non, mais c'est là où j'ai dit, c'est là où je ne suis pas d'accord. J'ai parlé de déclarations gratuites.
Moi je veux bien que le président puisse libérer d'abord la justice. Qu'il libère la justice, que la justice commence à fonctionner indépendamment et commence à mener des enquêtes, on lui fera rapport et lui prendra les décisions qu'il faudra.
Merci beaucoup.
On ne peut pas se limiter à une seule personne.
Merci.
On n'est pas d'accord avec.
Merci beaucoup. Vous avez souhaité qu'on puisse étendre ça au niveau de l'Assemblée du gouvernement au lieu de limiter cette action qu'à un seul ministre. Julien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et merci à vous pour la parole que vous m'accordez. Je viens de vous prendre en cours d'émission, hein. Donc je crois qu'on est en train de parler de la lutte contre la corruption.
Parfait.
Oui.
Tout à fait.
Écoutez, la corruption, elle a eu lieu. Elle a toujours eu lieu. Elle a lieu et elle aura encore lieu. Dire que le président de la République, magistrat suprême, doit faire ceci, il doit arrêter des gens, ainsi de suite, c'est une bonne chose. Mais écoutez, si on veut rester légaliste, il est ce vrai magistrat suprême, les jugements, on les exécute en son nom. Mais il y a ceux qui sont chargés de rendre cette justice-là. Il y a ceux qui sont chargés de chercher ces cas de corruption, de les déférer devant la justice et de les faire condamner par des juges. Je parle des magistrats, vous m'avez compris. Mais que font-ils ces magistrats-là? Parce qu'il y a la corruption dans la magistrature. Vous comprenez? Alors, s'il faut vraiment commencer à lutter contre la corruption... Moi, je crois que, parallèlement à des cas avérés qui se présentent, mais il faut taper très fort alors, très fort du poing sur la table. Je serai président de la République, que je le ferai, par rapport aux magistrats. Ben, écoutez, l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas le président qui la donne. Il doit réveiller les magistrats en tant que magistrat suprême. Que faites-vous, messieurs les magistrats? Qu'est-ce que le peuple vous a donné comme pouvoir dans la Constitution? Les magistrats, la justice, elle est rendue sur l'étendue du pays au nom du peuple congolais. Et d'ailleurs, à côté de ça, moi je pense que même nous, le peuple, nous n'allons pas garder les bras.
Regardez, oui, mais quelle analyse faites-vous, monsieur Julien? Quelle analyse faites-vous de cette suspension d'un ministre et des autres mandataires de l'État? Est-ce que c'est le début de la lutte contre l'impunité en RDC?
Ben, écoutez, à ce niveau-là, moi, je crois qu'on est encore au niveau administratif. Vous comprenez? Parce que la suspension, je crois que c'est une mesure administrative. La lutte, elle commence. Bon, enfin, c'est peut-être un prélude, hein. Mais la vraie lutte, elle commence par des poursuites. Il faut que la justice soit saisie. Il faut qu'un magistrat, le plus haut magistrat, le PJ, parce qu'il s'agit de haut cadre-là, soit saisi. Il faut qu'il ouvre des dossiers. Il faut qu'il convoque ces personnes-là. Il faut qu'il les entende. Vous comprenez? Et la plainte, les plaintes doivent être bien articulées autour des faits précis. Vous comprenez? Et on comprend qu'il n'y a pas que ces cas-là, il y a beaucoup de cas. Mais moi, ce qui importe pour moi, je crois que c'est déjà un bon signal que nous encourageons. Mais moi, je crois que les magistrats doivent aussi se réveiller. Et le président doit les réveiller, parce qu'il n'y a personne qui se réveillera un jour pour dire « Écoutez, vous devenez indépendant ». C'est déjà dit dans la Constitution, c'est écrit dans la Constitution.
Mais monsieur Julien, quand on évoque la séparation du pouvoir ou la liberté des institutions, il y a les gouvernements qui jouent sa partition, les présidents à lui seul ne peut pas prendre des décisions comme un timonier seul là au-dessus de la mêlée. Et il y a le Parlement qui fait le contrôle aussi, qui doit avoir tous les éléments. Mais dans la configuration actuelle, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, dans ce contexte-ci, dans un bref délai, le chef de l'État peut aussi prendre des mesures de manière objective?
Ben, écoutez, moi je crois qu'il ne faudrait pas non plus mettre toute cette pression-là sur le président de la République, parce que lorsque vous parlez de séparation des pouvoirs, effectivement c'est ça. Lui, il a ses pouvoirs qui lui sont reconnus, il les défend, il les revendique. Le Parlement a ses pouvoirs qu'il revendique aussi, mais les cours et tribunaux ont aussi leurs pouvoirs. Mais moi, je ne les ai jamais entendus revendiquer ça. Par contre, ils disent, ben écoutez, bon, vous savez, nous sommes sous la férule des politiques, nous sommes infiltrés parce que nous n'avons pas la liberté. Mais écoutez, le président de la République ne doit pas se laisser, en tout cas, influencer pour violer la loi. Non, il a ses prérogatives. S'il agit, il doit agir conformément à la loi. Mais parallèlement, moi, je voudrais que, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ben écoutez, ça doit être transversal. Nous n'allons pas nous adresser au seul président de la République. Adressons-nous aux parlementaires aussi. Mais adressons-nous surtout, demandons des comptes à nos magistrats, parce que c'est en autre nom qui rendent la justice. Mmh. Vous comprenez ? Lorsqu'on porte un cas devant un magistrat qui ne le traite pas, c'est un déni de justice. Qu'est-ce que nous faisons devant ça ? Qu'est-ce que les avocats font devant des cas pareils ? Vous comprenez qu'il peut y avoir plusieurs intervenants pour que tous dans la même direction, nous disons non, non à la corruption, en nous adressant et au président de la République, le symbole de la nation, le garant de la Constitution, le magistrat suprême, mais en même temps à ceux qui sont chargés spécifiquement de faire ce travail.
De faire ce travail. Merci.
Si vous permettez,
allez-y,
j'ai pris une initiative par rapport à cette impunité maladive là, cette impunité qui énerve. J'ai pris l'initiative de faire une pétition que j'adresse au magistrat. Mmh. Ben, écoutez, c'est très facile de dire lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, ainsi de suite. J'ai mis cette pétition en ligne, mais écoutez, ça va faire presque une année, mais vous savez combien de gens soutiennent ça ? Parce que je fais la médiatisation chaque jour. J'ai approché des universités, mais c'est une déception. Ben, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'est notre lutte à nous tous.
Alors, nous allons vous demander, oui. M. Julien, de nous transmettre cette pétition. Nous allons la scruter et voir dans la mesure du possible comment nous reviendrons encore sur les ondes des Radio Capi dans le cadre de Paroles aux auditeurs, de soumettre ça au débat pour l'ensemble des auditeurs. Merci beaucoup, Julien.
Ça serait très intéressant. Mais
entrez sur notre page Facebook Paroles aux auditeurs et balancez-nous. C'est okay. Là, et à nous mettre aussi vos contacts. Souci. Merci beaucoup.
Je le fais immédiatement, donc dans la journée, je le fais déjà.
Merci beaucoup, M. Julien. Alors, Félix, vous êtes à Guadeloupe. Vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Félix. Et nous allons revenir à vous, Ernest Impararo, président de la LICOCO. Vous venez de suivre Julien particulièrement et les autres. Quelle est votre réaction?
Effectivement, Julien a raison, parce que, comme vous le savez, lorsque la justice est malade, nous assistons à tous ces faits de corruption parce que ces gens-là ne font pas leur travail. Il y a très longtemps, nous avions écrit au procureur général de la République, nous lui avons demandé comment est-ce que sur les 5 ou les 10 dernières années, aucun ministre n'a été jugé, aucun DG n'a été jugé, aucun général n'a été jugé, aucun secrétaire général n'a été jugé. Donc, le Congo est clean en matière de corruption. Tu sais ce qu'il nous a répondu? Il nous a répondu, non, vous savez, c'est parce que ces gens-là ont des immunités de privilèges et des immunités de poursuites. Nous leur avons dit, ah, donc nous là, des ONG, nous les journalistes, nous on n'a pas d'immunité, c'est comme ça qu'on nous envoie facilement à Makala. Alors que ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui amènent à la pauvreté, ceux qui contribuent à l'insécurité, ceux qui contribuent au sous-développement, c'est la coule douce.
Mais la loi autorise et donne ces prérogatives-là au procureur de pouvoir solliciter la levée de l'immunité de quelqu'un, même des parlementaires.
Effectivement, nous l'avons vu. Il y a pas
et les députés profession n'ont même pas des immunités. Ils ont des privilèges. Les gouverneurs, ils ont des privilèges de justice.
Effectivement, nous l'avons vu. Nous avions transmis, par exemple, les dossiers de Bokangalonzo chez le PGR. Jusqu'aujourd'hui, aucune action. Nous avons transmis les dossiers de la fibre optique chez le PGR. Jusqu'aujourd'hui, aucune action. Nous avions transmis sur les dossiers des contrats chinois, les routes, les infrastructures qu'on est en train de construire, parce que nous avons soupçonné qu'il y a eu surfacturation des prix. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, hier, le PGR, silence radio. D'ailleurs, l'inspecteur judiciaire qui enquêtait sur ces dossiers-là, il avait été retraité. Vous comprenez que, comme notre frère de Kinshasa a venu de le dire, nous faisons face à des procureurs et à des juges qui sont complices de la corruption. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons ? On doit se révéler, demander leur départ.
Voilà.
C'est que ça, parce que lorsque nous avons de ce genre de juges qui n'aident pas la population, qui croient qu'elles sont au-dessus de tous.
Est-ce qu'à ce moment, les ONG, les défenses des droits de l'homme, ou encore vous, de la LICOCO et tant d'autres, comme l'a signalé également ses compatriotes, avec une pétition qu'il a soumise pour adoption, et soutien également dans les différents réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez pas vous retrouver et faire une pétition à remettre au chef de l'État?
Effectivement, c'est une bonne idée. Nous, comme vous le savez, c'est le peuple qui a le pouvoir. Si aujourd'hui nous disons tous non contre la corruption, je vous assure que dans moins d'un jour, vous verrez des ministres en prison.
C'est-à-dire évoquer des faits avérés et qui pouvaient aider la présidence de la République à prendre des décisions avec effet immédiat.
Effectivement, je vous dis non. Prenez les cas Bukangalo, c'est un fait immédiat. Mm-hmm. Prenez la fibre optique, c'est un fait immédiat. Prenez les dossiers SPI, c'est un fait immédiat. prenez le GoPass ici de la RVA. C'est un fait immédiat.
Voilà.
Immédiat.
Voilà. Ernest Pararo, on va écouter Platini qui est à Mbandaka, qui nous a également rejoint. Bon, voilà, il va placer un mot. Platini, vous êtes avec nous?
Bonjour, Marcel. C'est Platini Bombo depuis Mbandaka, les Côtes. Je suis en ligne. Je salue la thématique du jour. C'est très important. Quand le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a pris acte de suspendre le ministre des Affaires foncières, c'est très important, très intéressant. Moi, je voudrais quand même parler sur le plan de la corruption, parce que la République démocratique du Congo, nous avons parcouru sur le plan, c'est tout le plan. Surtout quand on parle de la corruption, vraiment c'est inefficace ici dans notre pays. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout ça. Alors moi, je souhaite que le président de la République commence à suspendre tout le monde, parce qu'il y a aussi d'autres ministres qui font du travail, qui font la corruption au sein de nos services qui se trouvent ici à la République démocratique du Congo. Alors pour ne pas aller trop loin, moi je voudrais quand même demander si l'invité peut nous dire, est-ce que c'est seulement le ministre des Affaires foncières qui a fait ce qu'on appelle la subordination, ou aussi d'autres états membres de ministres nationaux qui font l'insubordination à tout moment et jour et nuit. Et je crois que le président de la République doit faire le fils qu'il faut de suspendre tout le monde, y compris même le gouverneur des provinces. Parce que là, maintenant, là, qu'on a suivi, on va prendre acte à rapport avec la corruption qui vient d'être passée, l'élection des sénateurs, et aussi le bureau du gouverneur provincial à travers le pays. Et je crois qu'on attend la résolution à quoi le président de la République doit
passer. Merci beaucoup, Platini. Je crois que c'est notre sujet de demain. C'est celui-là sur les élections sénatoriales où la FCC remporte pratiquement la majorité de sièges. Comment commentez-vous donc ces sujets, et comment voyez-vous l'avenir démocratique, l'avenir de la démocratie en RDC et surtout l'exercice du pouvoir dans les prochains jours? Alors on revient à vous, Ernest Pararo, parce que on va conclure cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en tout cas si on doit les rappeler, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui nous ont pris en cours de cette émission, pour consolider cette lutte contre l'impunité, selon le directeur de cabinet, qui a commencé par ces différentes décisions, notamment celle de la suspension du ministre des Affaires foncières pour insubordination, et aussi la suspension du directeur général de la SCPT, ex-Onatra et son adjoint, ainsi que les responsables de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, tous pour mauvaise gestion.
Oui, merci JR. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons, nous Congolais, toute la population congolaise, nous devons continuer à faire pression à l'actuel régime, à l'actuel président, pour qu'il passe de la théorie à la pratique, pour qu'il commence à auditer toutes les structures de l'État, de la commune jusqu'à la présidence elle-même, pour que, effectivement, toutes les personnes qui sont impliquées dans la mauvaise gestion, dans les faits de corruption, soient sanctionnées conformément à la loi. Qui peut le faire? C'est ensemble, journalistes, nous, ONG, la population congolaise, à dénoncer des pratiques de corruption, à s'élever pour dire non, parce que la corruption a des conséquences énormes sur nos vies quotidiennes. Donc nous devons nous demander au niveau de la Likoko, nous disons aux Congolais, nous demandons à la population de continuer à faire pression, de continuer à dénoncer. C'est comme ça qu'on peut changer, parce que les politiques ne changeront jamais s'il n'y a pas pression populaire. Vous l'avez vu, lorsqu'on voulait changer la constitution, les gens se sont levés et il y a eu une modification, ils n'ont pas changé. Aujourd'hui aussi, si nous nous levons pour dire non à la corruption, pour demander qu'il n'y ait plus de personnes qui ont mal géré, qui soient dans les institutions publiques, vous verrez demain que les choses pourraient changer.
Ernest Pararo, président de la LICOCO, la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Voilà, merci également à vous tous qui avez participé à cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.